La grande table d'été poursuit son exploration cinématographique. À 13h30, la comédienne Léa Drucker, à l'affiche dont J'ai promis d'être sage de Ronan Lepage, sera l'invitée du portrait. Mais avant cela, nous allons parler de l'espace. Alors que cet été, nous célébrons les 50 ans de la mission Apollo 11, un documentaire, Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros, retrace les grandes étapes de la préparation de la mission, accomplie avec deux coéquipiers et baptisée Proxima. Celle-ci a permis de réaliser des opérations de maintenance sur la Station Spatiale Internationale, mais aussi des expérimentations scientifiques et médicales. La mission de trois astronautes continuant à sonder un espace dont nous ne percevons que les images et dont nous allons parler en compagnie du réalisateur Pierre-Emmanuel Le Goff et de Philippe Hénard-Réjos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace et auteur de « Ils ont marché sur la Lune » aux éditions Belin. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Maëlys.
Alors avant de rentrer dans ce documentaire, peut-être quelques mots sur cet anniversaire, Philippe Hénard-Réjos, cet anniversaire d'Apollo 11. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on retient de cette mission-là aujourd'hui ?
On retient le fait que, évidemment, des hommes ont marché pour la première fois sur la Lune, mais ce faisant, ils ont porté un regard sur la Terre depuis l'endroit le plus loin où des gens sont allés. Et c'est ça aussi l'exploration, c'est partir pour aller voir un autre corps céleste, en l'occurrence il s'agissait de la Lune, mais Neil Armstrong, comme les autres, et peut-être plus que les autres encore, a eu vraiment cette sensation de voir la Terre comme un vaisseau spatial seul, dans l'univers, dans le noir de l'univers. Depuis la Lune, il suffisait du pouce pour masquer la Terre, pour masquer tous les milliards d'êtres humains qui étaient à bord de ce vaisseau spatial. Et c'est peut-être aller sur la Lune, la première prise de conscience que nous sommes tous embarqués dans le même vaisseau spatial. Il n'a pas l'air comme ça technologique, mais il marche très bien, mais il a des capacités limitées et il faut en prendre soin. Et c'est ce que disait Neil Armstrong avant de s'embarquer vers la Lune.
Alors, Pierre-Emmanuel Le Goff, effectivement, c'est une des choses qui apparaît très rapidement dans le documentaire sur Thomas Pesquet. C'est l'une des paroles, d'ailleurs, de Thomas Pesquet, disant que, à la fois, ce recul pris par le voyage, c'est une réflexion sur la Terre et une réflexion environnementale, en premier lieu.
Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose, effectivement, que Thomas avait en tête dès avant son départ, puisqu'il avait pu échanger avec d'autres astronautes, non seulement ceux des Shenanigans, qui sont les autres astronautes européens qui ont été formés avec lui, mais aussi les Américains, les Russes, qui faisaient partie aussi de sa mission. Et c'est quelque chose qu'on a pu découvrir ensuite, quand il est parti dans l'espace, c'est qu'effectivement, il a ressenti cet overview effect dont parlent d'autres astronautes, c'est-à-dire cette prise de conscience de la fragilité de la Terre, de cette atmosphère extrêmement fine qui la protège et de notre rôle à tous de la protéger et encore plus peut-être pour les spationautes d'avoir une forme de rôle un peu d'ambassadeur pour expliquer en quoi ce vaisseau spatial justement doit être maintenu en l'état le plus longtemps possible.
Alors ça on le saura après sa mission puisque ce film-là se passe après, il y verra de ses yeux la moitié de l'Amazonie justement abîmée, déforestée. Il va y avoir ce constat aussi fait sur les dégradations qu'il va faire de ses propres yeux. Mais là, dans ce film-là, on en est aux prémices, à la préparation. Ce film, il commence un an avant le départ de sa mission, qui elle-même durera 6 mois.
Exactement, on a eu la chance de pouvoir le contacter assez tôt.
Vous dites-nous parce que vous êtes deux.
On est deux réalisateurs et j'ai réalisé le film avec Jürgen Hansen qui avait lui-même déjà réalisé un documentaire sur l'astronaute allemand Alexander Gerst. Et donc là on l'a suivi à la fois en Russie à la Cité des Étoiles où il s'est entraîné sur le vaisseau Soyouz, mais aussi à Houston, à Cologne. Et on a pu découvrir un peu la complexité de ce que c'est qu'un entraînement qui a pour objectif de préparer à l'ensemble des problèmes notamment qui peuvent se dérouler dans la station spatiale, mais aussi mettre en place les expériences scientifiques notamment. Et donc, ça a été une sorte d'aventure assez extraordinaire pour nous de pénétrer dans ces lieux un peu sacrés de la conquête spatiale. Quand on était à Houston, on a pu découvrir des reliques un peu de la mission Apollo, faire une interview justement de Thomas dans le centre de contrôle de la mission Apollo. Donc, c'était assez fort aussi en termes émotionnels de remettre les pas dans ceux des légendaires astronautes de la conquête spatiale.
Alors, c'est vrai que vous refaites un petit historique à travers les lieux, s'il y a des lieux qui sont toujours les lieux connus, hein, ceux de la NASA, il y a plusieurs lieux en Russie qui sont un peu des lieux sacrés que de l'aéronautique et toujours aujourd'hui, qui restent des lieux d'entraînement.
Et ça, ce sont des lieux à la fois sacrés presque historiques, enfin, ce sont des lieux historiques, ce sont des lieux chargés d'histoire, mais ce sont des lieux vivants où l'histoire de demain continue à s'écrire. Et donc, vous avez effectivement, à côté de vestiges de pas de tir qui ont servi aux premières missions dans l'espace, peut-être, à, je pense, en Floride, à Cap Canaveral, il y a les anciens pas de tir des premières fusées avec des capsules Mercury d'Alan Shepard, de Gus Grissom, etc., qui sont désaffectées. Donc, certaines tombent un peu en ruine, d'autres, on essaie de se dire, tiens, est-ce qu'on va pas les préserver un peu quand même? Du côté de la Cité des Étoiles, il y a un effet qui est un peu plus... enfin, ils sont un peu plus, comment dire, soucieux de ce patrimoine-là, avec l'allée des astronautes, où chaque astronaute, depuis Gagarine, a planté un arbre. Il y a tout un cérémonial à Baïkonour.
Il y a tout un rituel, c'est très codifié d'ailleurs.
Donc, ce sont des lieux d'histoire, mais l'histoire continue à s'écrire. C'est pas des lieux, c'est pas simplement des mausolées. Il y a un aspect comme ça, mais l'histoire continue à s'écrire.
Alors, il va s'écrire de plusieurs manières, à travers notamment des transmissions que l'on va pouvoir voir à travers la relation, notamment entre l'américaine Peggy Whitson dans le documentaire et Thomas Pesquet. Mais avant, quelques mots d'histoire, puisque vous avez parlé de l'arbre qu'il a planté. On va écouter quelques mots sur Gagarine.
Ici Moscou. Communiqué de l'agence TASS sur le premier vol de l'homme dans l'espace cosmique.
Aujourd'hui, 12 avril 1961, en Union soviétique, le premier vaisseau Spoutnik cosmique au monde, Vostok, ayant à son bord un homme, a été placé sur son orbite autour de la Terre. Le pilote cosmonaute du vaisseau Spoutnik cosmique Vostok est un citoyen de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le pilote commandant Yuri Gagarine. Le lancement de la fusée cosmique à nombreux étages s'est déroulé heureusement, et après avoir acquis la première vitesse cosmique et s'être séparé du dernier étage de la fusée porteuse, le vaisseau Spoutnik a commencé son vol libre sur son orbite autour de la Terre. La période de la révolution du vaisseau Spoutnik autour de la Terre était de 89 minutes 1 dixième. L'éloignement minimum de la surface de la Terre au périgée était de 175 km et la distance maximum à l'apogée était de 302 km. L'angle de l'orbite par rapport au plan de l'équateur était de 65 degrés 4 minutes.
Alors, outre les explications techniques et les données scientifiques, Philippe Hénarejo, ce que l'on remarque, c'est la différence de contexte politique dans lesquels se passe, alors évidemment, le contexte de guerre froide, la conquête d'un côté, et aujourd'hui la grande collaboration international autour de ces questions spatiales.
Oui, c'est ce qui a changé. L'exploration de l'espace, le fait d'envoyer des engins ou des hommes dans l'espace a commencé dans un contexte, qu'il faut bien le dire, était sous-tendu par les militaires. Les fusées qui permettent d'envoyer satellites et hommes dans l'espace, au départ, ce sont des missiles. Et c'est dans le contexte de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis.
Là, c'est en 61, l'archive, voilà. Elle date du 12 avril 61.
Exactement, en 57, quand le premier Spoutnik, premier satellite artificiel de la Terre est lancé par les Russes, les Américains sont atterrés parce qu'ils se disent, ça y est, des bombes atomiques peuvent aller en orbite et nous tomber dessus à tout moment. Donc ça, c'est le contexte du départ, c'est dans cette rivalité que va se développer l'exploration de l'espace jusqu'au pas d'Armstrong sur la Lune et aux autres missions Apollo. Ensuite, à partir, peut-être on peut le dater, c'est toujours caricatural, mais en 1975, et pour marquer la fin de cette course à l'espace, il y a un vol commun entre les Américains et les Russes, un Soyouz qui vient s'amarrer à une capsule Apollo, et les astronautes des deux nations se serrent la main. C'est peut-être le premier acte de collaboration bien vu, enfin en tout cas bien visible du grand public.
Au moins symbolique.
Et symbolique, absolument. Et depuis, alors aujourd'hui on est passé dans une ère où effectivement la Station Spatiale Internationale, c'est le symbole d'une collaboration entre plusieurs États qui fonctionne, quelles que soient les tensions politiques, et il y en a ici-bas. Donc, quand les Américains sont fâchés avec les Russes, les astronautes américains continuent à voler, à monter à bord de Soyouz russes pour aller à bord de la station et à travailler avec des Russes, des Japonais, des Européens.
Alors, Pierre-Emmanuel Le Goff, dans cette mission Proxima, à bord, il y avait Peggy Whitson, dont on a parlé, et Oleg Novitsky, donc une Américaine et un Russe. Et cette relation très forte avec Thomas Pesquet vient du fait que Peggy Whitson a déjà fait plusieurs vols dans l'espace et elle va être en quelque sorte son mentor déjà sur Terre au moment de la préparation.
Exactement, elle est vraiment une vétéran de l'espace, puisque, comme aime à le dire Thomas Pesquet, elle a quasiment construit de ses mains la station spatiale. Donc quand elle est partie dans l'espace, elle avait 56 ans, le programme de la station spatiale a une vingtaine d'années. Donc effectivement, elle a fait un nombre important de missions et elle a effectivement eu un rôle de mentor, un peu de maître Jedi, comme le dit lui-même Thomas. Et ça s'est très bien passé, puisque dans la suite de l'histoire, l'autre film, Danseuse de lever de soleil, on peut aussi découvrir que elle a un peu joué le rôle de maman. Il y avait beaucoup d'émotions au moment du départ. Ils ont fait un dernier repas, la maman de Thomas était présente et vraiment Peggy avait les larmes aux yeux en expliquant à la maman de Thomas qu'elle allait prendre soin de lui. Donc il y a une relation presque quasi filiale en fait qui s'est mise en place. Et c'était important pour Thomas parce que je pense que pour lui c'était pas évident. Une première mission dans l'espace est extrêmement lourd en termes de pression, et avoir quelqu'un comme ça qui nous prend sous son épaule, effectivement c'est plutôt une relation très, très confortable pour lui.
Alors ils ne sont pas les seuls, puisqu'il y a tout un groupe de cosmonautes, même s'ils ne sont pas tous dans la capsule à ce moment-là, qui est constitué avant le départ avec une dynamique de groupe qui est créée, qui fait partie de l'entraînement.
Complètement, ça fait partie de leur mission de réussir à créer une cohésion en amont pour faire en sorte que là-haut, notamment dans les cas d'urgence, ils puissent avoir une fluidité de réaction, pouvoir bien communiquer entre eux, connaître psychologiquement comment va fonctionner l'autre astronaute.
Ils connaissent les familles des uns des autres ?
Ils connaissent les familles, ouais, ils se voient, ils font en sorte justement de tisser ce lien jusque dans les familles. Et Thomas, en l'occurrence, avait été sélectionné notamment pour ses compétences et on va dire des critères de... pas simplement d'empathie, mais de cohésion de groupe, qu'il est vraiment en capacité à faire en sorte de créer une bonne synergie dans un groupe. Et effectivement, on a bien senti pendant sa mission, ensuite de 6 mois dans l'espace, qui faisait partie des astronautes qui étaient plutôt qui amenaient de la gaieté dans la station spatiale, qui amenaient un peu de poésie, qui jouaient de la musique.
Enfin,
c'était vraiment un bon partenaire, je pense.
Philippe Hénard-Réjos, est-ce que les critères de sélection des astronautes ont évolué justement au gré des expériences de ces différents vols, avec ces transmissions qui ont pu être faites sur des éléments aussi très concrets, très matériels, très pratiques?
Oui, clairement oui, parce que si on prend les débuts, les premiers, comme Gagarine ou Shepard, ou même Armstrong, ils faisaient partie des tout premiers à aller dans l'espace, il y avait tout à inventer. Donc déjà, leur entraînement, je pense, c'était pas le même. On leur faisait subir de vraies tortures, sans trop savoir vraiment...
Ah, pourquoi si des vraies tortures?
Ben, il fallait qu'ils soient capables de faire face à des imprévus. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais ces imprévus, on les a un peu mieux cernés quand même. On sait quelles situations peuvent rencontrer les astronautes dans l'espace, alors qu'à l'époque, on en ignorait tout. Donc on prenait des pilotes, des gens qui avaient des capacités physiques, d'entraînement, d'endurance extrême, et on leur faisait faire tout un tas de choses, et on les sélectionnait même comme ça. Il y en avait qui étaient écartés, et ils n'en pouvaient plus. Donc c'était au-delà de ce qu'ils allaient subir. Et une fois dans l'espace, ils ont expérimenté. Je veux dire, le mal de l'espace, certains ont été malades, alors que c'est quand même des aviateurs, ils sont habitués à encaisser des jets, à sentir, à faire ces montagnes russes, ils ont fait du 0G, etc. Mais une fois dans l'espace, ils ont découvert, c'était les pionniers. Donc,
eux, notamment les qualités psychologiques, voilà. Qu'il faut peut-être...
À l'époque, on se faisait moins de... on focalisait moins là-dessus parce que les séjours étaient quand même de courte durée. Une mission lunaire, qui était pratiquement la plus longue à l'espace, à l'époque, c'était 12-14 jours pour les dernières missions. Donc on prenait des équipages qui avaient des compétences extrêmes en pilotage. On les avait un peu formés à la science, à faire de la géologie, mais c'était pas forcément leur tasse de thé. Et des gars qui avaient un caractère et un acier trempé, donc ils pouvaient faire face à toute situation. Et certains équipages n'étaient pas forcément assemblés. Par exemple, celui d'Apollo 11, c'était un équipage qui passait énormément de temps dans les simulateurs pour préparer la mission, mais qui, dès que l'entraînement était terminé, chacun des trois repartait chez lui, il n'allait même pas prendre un café ensemble, en quelque sorte. C'était, comme le disait Michael Collins, le troisième
de l'équipe d'Apollo 11.
Il qualifiait cet équipage, a posteriori, d'aimables étrangers. Donc, on pouvait avoir ce cas de figure-là, mais ça marchait. Ils étaient compétents chacun à leur domaine. L'un était spécialiste du module lunaire, l'autre du module de commande en orbite autour de la Lune, etc., des rendez-vous spatiaux, de la marche lunaire, un peu de géologie, etc.
Donc, quelque chose de technique, un peu militaire,
voilà.
D'une certaine manière.
Là, ce qu'on voit notamment dans le documentaire, c'est que c'est très précis leur préparation. On sait très exactement à ce à quoi ils vont faire face. Dans les simulations d'échecs, d'accidents, on sait ce qu'on peut leur envoyer qui est très réaliste. Et surtout, ils vont devoir faire des missions de longue durée. Thomas Pesquet, il est parti, à la différence de Gagarine. Gagarine, il a tourné une fois autour de la Terre. Et c'est tout. Il a fait 90 minutes à peu près. Donc c'est assez rapide. Thomas Pesquet, c'est son premier vol. Il est parti 6 mois. Donc on ne se prépare pas de la même manière. Les questions de pilotage, certes, il a dû ingurgiter tout ça parce qu'au cas où il y a un problème sur le Soyouz, il doit être capable de piloter. Mais ça n'est plus l'essentiel de sa mission. Sa mission, effectivement, il y a une dimension psychologique et de collaboration avec les autres astronautes qui vont être là-haut, parce qu'il va y rester 6 mois, enfermé dans un espace très confiné, qui va prendre le pas sur les considérations de pilotage, malgré tout.
Alors, il y a aussi le positionnement de cette nouvelle génération d'astronautes vis-à-vis de leurs prédécesseurs. On va écouter quelques mots du documentaire, justement, et Thomas Pesquet en parlait.
Nous, on est la génération qui n'a pas connu l'alunissage. On est la première génération d'astronautes, c'est la première fois que ça arrive. Que des gars sont des filles sont astronautes et ont pas de souvenir de l'alunissage en 69 de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Donc nous on n'a pas ça, on n'a rien dans le rétroviseur, on regarde complètement devant et nous on pense à Mars, on pense à aller de plus en plus loin. Donc on est cette première génération là qui se libère un petit peu de ses premiers pas et puis qui va faire les suivants.
Pierre-Emmanuel Le Goff, on entend justement ce discours vis-à-vis du passé et des missions qui ont énormément changé aussi dans leurs objectifs. Hein. Bien sûr, il ne s'agit plus simplement de la Lune, mais aussi de Mars et d'autres encore missions. Là, expliquez-nous un peu une petite biographie d'abord de Thomas Pesquet, son parcours, comment il a été sélectionné, puisque on commence par là votre documentaire, et puis peut-être les objectifs de la mission Proxima.
Alors Thomas, il a une formation plutôt d'ingénieur aéronautique. Il a travaillé, je vais pas tout faire son CV, mais notamment pour Thales aussi, pour les satellites.
Et ensuite, il a été pilote.
Il a été pilote pour Air France. Et ensuite, il y a une campagne de recrutement en fait organisée par l'Agence spatiale européenne. Il y a maintenant 8 ans, quelque chose comme ça. Et il a été sélectionné. Ils étaient 6 sélectionnés sur plus de 8500 candidats. Donc c'était une sélection drastique qui prenait en compte à la fois les compétences techniques, donc beaucoup de questionnaires par rapport à ça, mais aussi donc les capacités à travailler en équipe. Et ce qu'on sait peut-être moins, c'est la capacité à faire preuve de pédagogie, d'un vrai sens de la communication. Et je pense que là-dessus, Thomas, et on l'a vu, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais dans toute sa communication au sens large, il a été extrêmement efficace pour expliquer à quoi servait sa mission et légitimer les dépenses que font les États européens pour financer ce programme.
Alors, ce que l'on comprend dans le film, c'est que pour chaque mission, on recrute des astronautes. On n'est pas astronaute dans l'absolu. C'est-à-dire que pour chaque mission, il va falloir correspondre à des critères de recrutement particuliers.
Alors, il y a des campagnes de recrutement régulières, peut-être tous les 15-20 ans, qui constituent en fait une team de base. Là, ils sont 7 astronautes européens dorénavant, je ne crois pas dire de bêtises. Et ensuite, ils partent régulièrement quand il y a un fauteuil de libre pour les astronautes européens. Mais ils n'ont pas, on va dire que ce n'est pas en fonction d'un programme de scientifiques qui vont être sélectionnés pour des compétences particulières. Ils essaient de faire un roulement et après les agences spatiales nationales vont faire en sorte qu'ils réalisent un certain nombre d'expériences, et en l'occurrence Thomas a réalisé près d'une centaine d'expériences, qui était un très très bon score, on va dire, des expériences donc scientifiques. Puis après il a fait des opérations plus de communication et il a pris des photos, etc.
Philippe Hénarejos, comment ça se passe dans l'absolu? On parlait de Peggy Whitson qui faisait son troisième séjour dans l'espace, je crois bien. Donc combien de séjours se font dans ces carrières-là depuis les 30 dernières années?
Alors, c'est très variable, en fin de compte. Ça dépend évidemment des objectifs des agences spatiales, de leurs besoins. Ça dépend aussi des astronautes. Il y a des astronautes qui peuvent raccrocher plus rapidement. C'est quand même une activité qui est extrêmement exigeante. C'est de l'entraînement permanent, on le voit dans le documentaire. On est coupé des familles. Et quand c'est permanent, c'est pas des journées de 8 heures, c'est plus que ça. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Donc il y a certains astronautes qui ont volé une fois ou deux fois et puis qui s'arrêtent, qui raccrochent. Et puis il y a effectivement un roulement qui a, pour moi, toujours été un peu obscur dans les un système de roulement des équipages, que ce soit à la NASA ou à l'ESA. On ne sait jamais trop exactement comment ça fonctionne, mais en gros, bon, il y a une espèce de file d'attente ou un équipage de réserve. Bon, ça, là, on est bien placé pour être ensuite sur la mission suivante. Mais c'est un peu mystérieux. J'ai discuté avec des astronautes de la NASA de l'époque d'Apollo qui m'ont dit, oui, c'est quelque peu mystérieux. Donc, ça dépend aussi des directeurs des astronautes à ce moment-là. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un comme effectivement Peggy Whitson qui va faire plusieurs vols spatiaux et qui va être extrêmement capé. Je sais pas si c'est pas plus de 3, j'ai pas révisé, mais elle a fait énormément de sorties dans l'espace. C'est elle qui, en termes, je crois que ça n'a pas été battu depuis, en termes d'astronautes américains qui a passé le plus de temps cumulé dans l'espace. C'est vraiment quelqu'un qui a une expérience énorme. On a vu par le passé des astronautes comme John Young, par exemple, qui était sélectionné pour le programme Gemini, qui a volé sur les capsules Gemini, sur les capsules Apollo, qui est allé deux fois jusqu'à la Lune, il a marché une fois dessus, qui a fait ensuite deux vols dans la navette spatiale, qui ensuite est resté astronaute. Il a volé, je crois, la dernière fois jusqu'à 62 ans. Donc tant que le physiquement et en termes de compétences, on est apte au vol, l'astronaute qui le veut peut continuer à rester comme ça. Peggy Whitson, je crois qu'elle a décidé de raccrocher maintenant.
Ouais, elle a décidé de raccrocher, mais je crois qu'elle a envie de partir. Elle a envie de partir sur des vols privés, en fait.
Donc, ah oui,
c'est vrai qu'encore autre chose. Voilà. Sur la question des images, puisqu'on parlait des images en ce début d'émission, on voit aussi que la conquête de l'espace, elle a été nourrie de beaucoup d'images, puis elle a beaucoup nourri aussi la fiction. Vous, dans votre titre, alors même que c'est un documentaire, vous faites allusion à un grand film de fiction. Peut-être dont je vous propose d'écouter un extrait, après vous allez me répondre. C'est le film de Philip Kaufman, L'étoffe des héros.
Gordo. Gordo.
Ah. Uh-huh.
Well, I hate to disturb you, buddy, but we've got a launch here.
Uh-huh.
Well, there's millions of people around the world watching. We just thought maybe,
Yep. Well, no sweat. Let's go. I'm ready when you are, John. 100%.
Okay.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Alors là, on assiste au décollage de la navette. Hein. Ce film était de 1983, adapté du livre de Tom Wolfe. Et vous avez choisi de reprendre ce titre, qui est un titre de fiction, pour faire un documentaire. Alors pourquoi Pierre-Emmanuel Le Goff ?
Alors c'est aussi un choix qui a été pris avec notre coproducteur. Là, on a travaillé avec Planète Plus sur ce film. Et nous, on avait réfléchi à plein de titres. Après, il y avait, pour des questions un peu d'ordre commercial, le fait de garder Thomas Pesquet dans le titre. Et puis L'étoffe d'un héros, ça reste un film un peu clé dans l'histoire de la cinématographie des films spatiaux. Et il s'avère que je pense que aujourd'hui, si Thomas est à la place qu'il est, c'est-à-dire cinquième personnalité préférée des Français, c'est qu'on a sans doute besoin, dans le contexte actuel, d'avoir des personnes qui sont un peu des héros, c'est-à-dire des mentors, des gens qui...
Qu'est-ce que ça veut dire, des héros ? Est-ce que c'est à cause de ses capacités physiques ? Est-ce que c'est à cause de la mission d'aller dans l'espace, et qui correspond aussi à une mission de service public ? En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a défini, sa mission.
Bien sûr, je pense que c'est un peu tout ça à la fois, mais en même temps, c'est quelque chose qui, si on regarde la définition du terme héros, c'est quelqu'un qui réalise des choses extraordinaires, et en l'occurrence, ne serait-ce que parce qu'il y a peu d'hommes qui sont partis dans l'espace, on est déjà dans une dimension héroïque. Et après ça, Thomas, il coche pas mal de cases du héros, c'est-à-dire que physiquement, c'est quand même quelqu'un qui est à côté, une stature héroïque et extrêmement musclée, qui est plutôt bel homme, qui a une capacité de s'exprimer qui est extrêmement efficace, quelqu'un d'intelligent, et qui en même temps garde une proximité. Donc le héros, on a envie de s'identifier à lui. En l'occurrence, le phénomène d'identification avec Thomas a joué à plein, en fait. Donc je pense que par rapport à ça, et par rapport aussi à son rôle d'ambassadeur de la Terre qu'il a pu prendre après, il s'est révélé être finalement quelqu'un qui avait ce charisme-là dont on attend beaucoup maintenant, peut-être trop, je sais pas, mais en tout cas, oui, effectivement, on peut dire que dans un contexte actuel où notamment les enfants et la jeunesse a besoin de référents, Thomas est l'une des personnes en France, en tout cas, qui joue ce rôle.
Philippe Hénal-Réjeau, sur ces questions finalement du héros, il faut dire que les astronautes prennent beaucoup sur leur leur santé, il n'y a pas que l'entraînement, il y a les coûts physiques, les conséquences de ce voyage dans l'espace. D'ailleurs, ils sont eux-mêmes cobayes. Leur corps est lui-même cobaye et inspecté après pour voir les effets aussi de ces voyages.
Oui, ils sont cobayes et surtout, si on leur donne ce statut de héros, c'est quand même avant tout parce qu'ils prennent des risques. Ils se mettent au sommet de fusées qui sont en gros des gros tuyaux remplis de plusieurs tonnes, centaines de tonnes de carburant. Et si ça se passe mal, ça peut exploser. Et si ça explose, ça modifie les cartes de la région en général quand même. C'est pas des petites bombinettes. Donc c'est John Young, à mon avis, l'archétype vraiment du héros et de l'astronaute qui le disait. On lui demandait est-ce que vous avez peur. Il dit le gars qui s'installe au sommet d'une fusée. Alors à l'époque c'était la Saturne V, 3000 tonnes, dont à peu près 3000 tonnes de carburant. Hein. Donc le gars qui s'installe au sommet de cette fusée et qui a pas une petite appréhension au moment où ça décolle, c'est qu'il est pas sain d'esprit. Donc voilà, c'est en ce sens à mon avis à première vue qu'ils sont des héros. Après ils se mettent en danger effectivement, surtout pour les séjours un peu longs, parce que leur corps est soumis à des rayonnements, des radiations venues de l'espace, qui font que c'est supérieur à ce que prend au cours d'une carrière le personnel navigant dans les avions.
On dit une dizaine d'années de vieillissement pour un séjour de 6 mois.
De 10 à 20 ans, lorsqu'il est...
Ce sont des approximations.
Oui. Mais ils récupèrent, c'est-à-dire que ce sont des tests qu'ils font régulièrement sur notamment l'ostéoporose, ce genre de choses qui sont accélérés dans la station spatiale, mais ils récupèrent et surtout ils sont extrêmement bien entretenus quand ils sont dans l'espace. Ils font plusieurs heures de sport par jour, donc on a pu améliorer leurs conditions de retour sur Terre grâce à cet entretien du corps.
Il y a des effets réversibles, alors il y en a d'autres parfois qui ne le sont pas. Par exemple, ils perdent un peu d'acuité visuelle. Certains ont récupéré, enfin la plupart, et d'autres non. Donc il y a des choses comme ça sur les vols à longue durée qui font que, ils donnent de leur personne, c'est évident. Quand il faut une sortie spatiale, c'est encore autre chose. Ils sont exposés vraiment à un environnement très hostile et dangereux. Et même si c'est bien cadré par rapport à l'époque Gemini ou de Voskhod avec Leonov, il y a toujours des risques. On voit, par exemple, notamment dans le documentaire, on rappelle que Luca Parmitano, qui est un astronaute qui est en ce moment même dans l'espace, qui est retourné donc dans l'ISS, a fait une sortie. Eh bien, il y avait une fuite d'eau à l'intérieur du scaphandre. Et en gros, il était en train de se noyer à bord.
Il y a de l'eau qui est...
Voilà, il ne voyait plus, il n'entendait plus, donc on pouvait plus communiquer. C'était quand même assez dangereux. Et donc son entraînement lui a permis quand même de retrouver le chemin et de rentrer. Mais voilà, alors qu'on est dans les années 2000 et plus, que tout ça est bien bordé, il y a le risque est présent parce que dans un univers hostile. Dès que quelque chose commence à aller mal, ça peut très vite prendre des proportions dramatiques. Alors, c'est ceux-là qui sont des héros.
Le risque, on a en tête évidemment les missions dramatiques qui ont pu se dérouler par le passé, notamment Apollo 13. Il y a 3 risques principaux que vous détaillez dans ce film documentaire, Pierre-Emmanuel Le Goff. L'incendie, la dépressurisation, mais les risques liés à quelque chose de toxique, un liquide, un gaz.
Oui, là vous parlez des risques à l'intérieur de la station spatiale, et ça s'est déjà produit, hein, des débuts d'incendie, il y en a eu, des impacts de la station spatiale, il y en a eu aussi, des dépressurisations pendant la mission avant Thomas, il y en a eu une, il y a même eu ce problème était lié à une capsule Soyouz, on s'est même demandé s'il n'y avait pas eu un sabotage à un moment donné, donc ça commençait à prendre des proportions un peu inquiétantes. Et après, il y a les risques, effectivement, lors des sorties extravéhiculaires et les risques au décollage et au retour sur Terre, qui sont en fait les phases, finalement, quasiment les plus risquées, puisque assez récemment aussi, il y a une fusée Soyouz qui a explosé et la capsule a dû être éjectée en urgence. Donc les astronautes sont revenus sains et saufs, parce que les Russes prévoient bien les problèmes, on va dire. Mais non, ça reste effectivement un métier qui est extrêmement risqué. Et puis cette dimension sacrificielle dont parlait Philippe, qui est une dimension sacrificielle tant d'un point de vue physique que psychologique aussi. Je pense que être éloigné à la fois pendant les entraînements et puis pendant 6 mois de mission, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd à porter pour un humain.
Avec un système de quarantaine pour les remplaçants, etc. Alors peut-être détaillez-nous un peu ce protocole qui existe et qui est relayé dans le film, à savoir l'entraînement qui est à la fois physique et technique, et aussi psychologique, avec une prise en charge psychologique, et justement avec des simulations.
Alors des simulations, oui.
Alors il y a la piscine.
Il y a des simulations justement pour tester comment les équipages fonctionnent entre eux. Donc notamment au large de la Floride, et ils vont s'immerger dans une sorte de station qui est immergée par je sais plus moins 20 mètres sous l'eau, et donc ils voient comment ils arrivent à collaborer ensemble.
L'idée, c'est de retrouver un milieu inhospitalier.
Complètement, d'essayer d'être au plus proche de la réalité de la vie en apesanteur, et en l'occurrence pour justement les entraînements aux sorties extravéhiculaires, ils font des entraînements avec des simulations en réalité virtuelle, mais aussi dans une piscine au NBL. Et là, en l'occurrence, justement, Thomas s'était entraîné à devoir ramener Peggy Winson dans la station spatiale en cas de pépin, sans doute notamment aussi parce qu'il venait d'y avoir le problème pour Luca Parmitano, qui a été tracté, hein, puisqu'il voyait plus, il n'arrivait plus à percevoir ce qui se passait autour de lui, donc il avait été ramené dans la station spatiale. Donc tout ça, ça fait un ensemble de risques qui est quand même non négligeable, et je ne sais pas si il y a des statistiques, mais en l'occurrence, il y a quand même pas mal d'astronautes qui sont morts concrètement, notamment dans le programme américain, et puis le programme russe. On n'a sans doute pas connaissance de tous les incidents qu'il y a pu avoir pendant la préparation de leur programme, mais c'est non négligeable.
Alors, il va y avoir la question de l'attachement des uns aux autres qui est nécessaire sur Terre, notamment parce qu'ils vont devoir s'entraider en cas d'accident. On va écouter le parcours de Peggy Whitson, qu'on cite depuis le début, une des rares femmes astronautes quand même.
Je pense que j'ai commencé à rêver de devenir astronaute à partir de l'âge de 9 ans. Mais je ne crois pas que ce soit devenu un objectif, une réalité dans ma tête avant que je n'obtienne mon diplôme. Quand d'autres femmes ont été sélectionnées par le NASA, je me suis dit, moi aussi, je pourrais réaliser ce rêve. Heureusement, je ne savais pas à quel point ça allait être difficile. Je crois que je n'avais pas conscience de la quantité d'obstacles qu'il allait falloir surmonter pour réaliser cette ambition. Mais j'y suis finalement parvenue. C'est très important pour moi de faire de mon mieux dans absolument tous les domaines. Et là, je crois que ça a porté ses fruits. Il y avait des milliers de personnes qui postulaient pour le même poste, donc je pense que j'ai sûrement eu aussi un petit peu de chance.
Alors, un petit paragraphe peut-être, Philippe Hénarejo, sur la question de la place des femmes dans cette histoire aérospatiale.
Ben, elle est malheureusement réduite encore. Elle a été réduite à néant dès le début, puisque sauf par les Russes, puisque ils ont été les premiers, je crois que c'est en 1962 ou 63, je me rappelle plus, à envoyer une femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, mais c'était tellement politique, c'était pour montrer que le système communiste était égalitaire, etc. Non, après Valentina Tereshkova, il a fallu attendre 20 ans de plus pour voir une deuxième cosmonaute russe aller, c'était Svetlana Savitskaya, dans les années 80, aller dans l'espace. Et les Américains n'étaient pas encore là, il a fallu attendre le milieu des années 80, peut-être même la fin des années 80, pour voir une première femme dans la navette spatiale, Sally Ride. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le programme Mercury, qui est le premier programme de vols spatiaux habités américains, il y a eu des candidates, il y a eu une sélection de femmes, elles étaient 13, et simplement politiquement, il a été décidé en haut lieu, à la Maison Blanche ou en haut lieu à la NASA, qu'elles ne voleraient pas, alors qu'elles avaient toutes les capacités, et que l'expérience montre, en plus, avec maintenant toutes ces durées accumulées dans l'espace, que finalement, les femmes sont parfaitement adaptées, même presque plus aptes que les hommes.
De même qu'elles ont une durée de vie plus longue.
Ouais, voilà, qu'elles sont presque plus résistantes sur les longues durées ou sur les sorties spatiales, etc. Donc c'est dommage, mais les choses sont en train de changer.
Alors, il y a des exemples russes, des exemples américains, des exemples français, non?
Ben si,
pas trop.
Claudie Aigneré.
Un petit peu, Claudie Aigneré, bien sûr.
Qui d'ailleurs, qui est la parfaite illustration de ce que je viens de dire, parce que j'ai discuté avec quelques astronautes français de la génération juste avant, de la sélection juste avant Thomas Pesquet, qui m'ont dit que pour toutes les histoires de tabouret tournant, toutes les tortures qu'on évoquait tout à l'heure, là, physiquement, qu'il fallait encaisser des jets, etc., Claudie Aigneré, c'était celle qui résistait le mieux de tous. Les autres, ils l'admiraient. c'était un rock.
Pierre-Emmanuel Le Goff, sur cette question-là, on voit quand même à l'écran la centrifugeuse donc qui aide à résister, à apprendre à résister aux fortes accélérations. Peut-être quelques mots sur cette grande machine que l'on voit, qui est un peu un engin de torture quand même.
Ah oui, là, effectivement, on n'est pas loin de la torture. On peut monter jusqu'à, je crois, 6-7G quand il pousse vraiment à fond. Et Thomas, ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans cette séquence, c'est qu'il réagit très bien, il commence à nous parler d'une île déserte et d'un endroit un peu paradisiaque auquel il arrive à penser alors qu'il est en train de tourner et de prendre 3 ou 4G en l'occurrence. Donc c'est assez étonnant sa capacité, on va dire, de résilience et de son positivisme comme ça, qui est son optimisme à tout craint. Mais en l'occurrence, c'est pas quelque chose de du tout inutile, puisque Peggy Whitson, elle a eu un problème lors d'un retour sur Terre où elle s'est prise, je crois, jusqu'à 9-10G. Ça s'est très mal passé. Elle en a réchappé, fort heureusement, mais l'une des phases les plus dangereuses, comme je disais tout à l'heure, c'est notamment le retour. Et donc, ils ont intérêt d'être bien entraînés dans ces cas-là pour pouvoir continuer à essayer de manœuvrer le Soyouz, la reprendre les commandes en mode manuel et s'en sortir sain et sauf. Ouais.
Alors là, l'une des missions, les missions étaient bien sûr de venir faire de la maintenance dans la station spatiale internationale, mais il y avait aussi des expérimentations scientifiques et médicales. Quelles étaient-elles ?
En l'occurrence, la station spatiale, c'est d'abord avant tout un grand laboratoire qui permet de bénéficier de conditions qu'on retrouve pas sur Terre. Et donc il y a une partie maintenance, effectivement, pour que le laboratoire continue de tourner. Et puis il y a une partie expérimentation. En l'occurrence, donc Thomas a fait une centaine d'expériences. Je dirais que les plus emblématiques. Alors ça peut être des expériences sur les cellules du cœur. Ça peut être des expériences sur des matériaux qui permettent d'éviter les maladies nosocomiales, par exemple, dans les hôpitaux. C'est des expériences aussi sur lui-même, puisque dans la perspective de voyage au long cours, il est lui-même un cobaye privilégié, et donc on analyse un peu au quotidien comment son corps réagit à l'apesanteur. Donc ça veut dire pas mal de prises de sang, de biopsie, etc., ce qui est pas forcément très agréable au quotidien. Et puis après, pour rentrer plus en détail, peut-être que je vais passer la main à Philippe
si plus détail. Sur ces questions des expériences.
Parce que les missions se succèdent, effectivement, je crois qu'il y a des expériences qui consistent à voir l'évolution de la musculature avec l'absence d'apesanteur. Alors, on peut se dire que ça n'a pas d'application ici, mais a priori, oui, parce que justement, l'apesanteur permet de simuler des choses qui se passent sur Terre et qui ensuite ont des applications médicales. Mais je ne me rappelle plus exactement le détail. Il y en avait une centaine et les missions se succèdent et vraiment, j'ai du mal à m'en souvenir.
Et on voit aussi que Peggy fait de l'hydroponie, donc pour cultiver notamment des salades, toujours dans la perspective de voyage au long cours, mais on sait que le spatial, étant donné que c'est à la pointe de la technologie humaine, permet d'accélérer certaines choses, et on peut toujours se dire que l'hydroponie, l'aquaponie, peut avoir un vrai intérêt dans le contexte actuel, où il faut être plus efficient, on va dire, pour toutes les problématiques d'économie d'eau, et donc c'est une solution intéressante qui peut-être est accélérée grâce à ces expériences.
Alors, les prouesses techniques, elle n'est pas simplement réalisée pendant le vol, elles sont réalisées avant, notamment à travers la fabrication de la tenue, justement, où on assiste à une scène un peu emblématique du film dans lequel Thomas Pesquet enfile sa tenue.
Son étoffe de héros.
Son étoffe de héros.
Oui, là c'est dans le laboratoire Zvezda, qui est à côté de la cité des étoiles à Moscou. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que c'est un laboratoire privé. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que en l'occurrence, le programme spatial américain était un programme qui était un programme public, et alors que les Russes travaillaient avec différents laboratoires, ce qui est toujours en partie le cas. Et donc dans ce laboratoire Zvezda, Thomas a enfilé son étoffe de héros, sa combinaison d'astronaute pour rentrer dans le Soyouz, et c'est vraiment quelque chose qui est fait sur mesure, donc a été présente les couturières, les cordonniers, etc. Donc ça reste extrêmement artisanal, on va dire, comme préparation, et c'était très émouvant. Et puis en plus, c'était dans ce même lieu qu'il s'est fait mouler son siège de Soyouz, et là c'est assez étonnant parce qu'il est presque dans une position fœtale. Il y a un côté aussi presque religieux autour de cette quasi cérémonie du moulage de son fauteuil d'astronaute.
Philippe Hénard-Réjos, on retrouve toujours autour des voyages à la fois cette dimension bien sûr scientifique première très forte, et en même temps il y a toujours une sorte de discours esthétique sur les images transportées, les images rapportées, et un discours un peu métaphysique sur ce voyage qui est aussi un voyage intérieur, qui est aussi un voyage introspectif. On retrouve toujours ces dimensions-là.
Mais c'est normal, parce que les astronautes vont dans des endroits où personne d'autre va. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont. Ils sont autour de 600 à être allés dans l'espace depuis 1961. C'est pas énorme. Et donc, ils se retrouvent dans des lieux où les autres humains ne vont pas, où eux-mêmes, avant ça, ne sont pas allés, même s'ils ont été pilotes, qui sont allés sur des jets à très haute altitude. C'est pas la même chose. Autour d'eux, le ciel est noir. S'ils éteignent un peu les lumières, Il voit les étoiles comme personne, ça scintille pas. Et il voit quand même la Terre, alors pas dans son ensemble parce qu'ils sont quand même en orbite basse, mais en fait, il voit bien la courbure de la Terre. Ils en voient des grandes portions. Ils la survolent à une vitesse phénoménale, 28 000 km à l'heure, c'est-à-dire qu'en demi-heure, ils traversent un océan comme l'Atlantique ou le Pacifique pour se retrouver à un endroit où le soleil se lève alors que l'instant d'avant, ils étaient en plein midi au soleil. Ils voient des eaux turquoises, ils voient la banquise, ils voient tout ça évoluer. Donc c'est quand même une extraction de son monde où on le voit après dans son ensemble en très peu de temps finalement. Et forcément, ça a un impact sur la réflexion qu'on peut avoir. Bon, ceux qui l'avaient eu encore plus, et pourtant ils n'étaient pas doués pour ça, c'était les astronautes des missions Apollo, qui eux sont allés très loin, ils sont allés à 400 000 km, et ils ont vu la Terre de loin, et ça avait beau être à l'époque des militaires, des pilotes d'essai, des gens qui n'étaient pas au fond des philosophes, et puis ils n'étaient pas non plus très doués pour nous raconter ce qu'ils avaient vu, faut bien l'admettre, hein. Il a fallu leur tirer les vers du nez pendant des années. Et bien malgré ça, eux aussi ont... Surtout, eux ont été impactés par le fait de voir la Terre de loin. Ils l'ont chacun vécu à leur manière, mais ils en ont retiré une expérience effectivement métaphysique sur la réflexion de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente dans l'univers. Quand vous voyez la Terre de loin, que vous la masquez avec le doigt, et que vous dites ben, tout notre monde qui a l'air infini, qui est immense, si vous voulez parcourir la Terre à pied, ça va vous prendre du temps, ça va être compliqué. Ben, ce truc-là, ça, vous pouvez le masquer avec le doigt. Et puis c'est tout seul dans l'univers, vous regardez autour, c'est tout noir. Si vous avez la Lune en dessous, vous apercevez que c'est un autre monde, mais qu'il est parfaitement hostile. À côté, l'Antarctique, c'est un oasis. Vous regardez Mars, c'est hostile pareil. Vous regardez au télescope beaucoup plus loin, tout est hostile partout. Le seul havre de paix, c'est la Terre. Donc si ça vous fait pas réfléchir quand même au sens de la vie qui est apparu sur cette planète, c'est désespéré de tout. Et c'est justement ce qui arrive vraiment aux astronautes, et c'est pour ça qu'il y a cette dimension-là, à mon avis.
Pierre-Emmanuel Le Goff, vous avez décidé d'accompagner ce documentaire de musique, notamment du saxophone dont jouait Thomas Pesquet à bord, et il y a eu un saxophoniste qui a composé des musiques pour vous, Guillaume Perret.
Tout à fait, ouais. Guillaume a composé les musiques du long métrage qui suivait Thomas Pesquet, L'étoffe d'un héros, et je lui ai même demandé de composer un morceau que j'ai fait suivre à Thomas par email, et que Thomas a eu la gentillesse d'enregistrer et de filmer dans l'espace. Pour moi, c'était important puisque ça apportait une dimension, on va dire, de poésie, mais aussi de quelque chose d'assez sensoriel, puisque le saxophone, ça tombe bien, c'est un instrument qui est très proche de la tessiture de la voix humaine, et pour faire passer l'émotion, c'était vraiment un médium qui était extrêmement efficace, et Guillaume a fait un travail qui est assez sublime, et en plus en intégrant dedans la musique des planètes, donc ça permet de comme ça d'avoir un habillage sonore qui prend aussi en compte d'ailleurs les sons qu'on a dans la station spatiale, un habillage qui est extrêmement riche et qui participe de l'émotion.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Je rappelle que le documentaire Thomas Pesquet, L'étoffe d'un héros, que vous avez co-réalisé avec Jürgen Hansen, vient de sortir en salle. Quant à vous, Philippe Hénard et Jos, votre livre s'intitule « Ils ont marché sur la Lune », le récit inédit des explorations Apollo, et il est publié aux éditions Belin.
Hand in hand, have I lived to see the milk and honey land, where hate's a dream and love forever stands? Or is this a vision in my mind? Somehow all men feel they are truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my mind?
entend Cécile McLaurin Salvant's Visions. Elle est en duo avec le pianiste américain Sullivan Fortner. Reprise de Visions de Stevie Wonder, extrait de l'album The Window sorti en 2018. Cécile McLaurin Salvant sera en concert le 12 août, donc c'est aujourd'hui, au festival Au Gré du Jazz à la Petite Pierre et au festival Jazz Vocal à Paris le 13 août et le 15 août au festival Parfum de Jazz à Buis-les-Baronnies. Il est 13h30 sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la grande table d'été avec pour invité la comédienne Léa Drucker. On l'a vu cette année récompensée d'un César de la meilleure actrice, un César brandi en hommage à toutes les Myriam vivant la tragique réalité de la violence qu'elle incarnait dans Jusqu'à la garde. Aujourd'hui, elle est Sibylle dans Je promets d'être sage, une gardienne de musée acariâtre qui entre dans la comédie de manière surprenante. Léa Drucker est aujourd'hui l'invitée du portrait de la grande table d'été. Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
Alors cette première scène dans laquelle vous apparaissez, de ce premier film de Ronan Lepage, vous arrivez avec des boules-quies, vous êtes assise et ça commence en silence.
Oui, c'est une femme qui veut se couper du monde quelque part, c'est une femme qui en tout cas refuse de communiquer avec les autres et qui rejette en fait les autres pour pouvoir se protéger elle-même. On est quand même dans de la comédie, mais même quand on fait une comédie, moi je pars toujours j'essaie toujours de chercher avec le réalisateur, qui a écrit le film, le point de départ qui est humain, enfin quelque chose auquel je peux m'identifier.
Alors une Sibylle désagréablement drôle.
Oui.
Ça vous plaisait ça, d'avoir
beaucoup,
un rôle
beaucoup,
de femme désagréable?
Oui, j'aime bien les personnages désagréables parce que souvent ils ont des secrets. Ils sont désagréables pour des raisons qui peuvent être compréhensibles. Et puis c'est une forme très parfois maladroite, une façon très maladroite de se défendre aussi. Et puis c'est souvent des gens qui ont du mal avec les relations avec les autres, avec l'amour, avec tout ça et qui se protègent. Mais il y a une forme de mauvaise foi dans le fait d'être désagréable qui peut me faire rire, oui.
Alors il y a eu cet espace particulier du Musée des Beaux-Arts, je crois.
C'est le Musée des Beaux-Arts de Dijon.
De Dijon.
Qui est magnifique, dans lequel on a été très bien reçus, on a tourné l'été dernier. Et alors c'est un musée où on est entouré d'œuvres médiévales extrêmement précieuses et très impressionnantes, très belles.
Un peu violentes aussi,
oui,
un
et si
macabre.
On s'en approche, c'est très violent, ce qui crée un contraste entre ce calme apparent, on voit ces personnages évoluer dans ce film, qui se réfugient dans ce calme, notamment le personnage que joue Pio Marmaille, qui fuit une passion qui lui a fait du mal et donc il se retrouve gardien de musée. Mais en fait, ses œuvres qui l'entourent sont des œuvres extrêmement violentes. Donc il y a un contraste entre le chercher le calme et en même temps être toute la journée entouré de ces œuvres-là.
On a le sentiment de deux imaginaires qui se superposent, celui du film posé dans ce lieu-là qui lui-même est un lieu artistique. Vous, quelle relation vous entretenez avec les musées, avec les œuvres d'art picturales?
Moi, j'adore aller dans les musées parce que dans les musées, je trouve que le temps, on se retrouve dans un autre espace. Temps et qu'on s'y connaisse ou non, quelle que soit l'exposition, il y a toujours quelque chose d'émotionnel, même si on se retrouve devant une œuvre qu'on comprend pas ou qu'on rejette ou je sais pas quoi, il y a toujours une émotion. Et puis moi j'ai vu des expositions où je me suis retrouvée surtout seule. Moi en fait j'aime bien y aller toute seule parce que on peut assumer justement d'être intimidée en fait et de se dire tiens mais ça je connais pas, je vais lire un maximum de choses là-dessus, ou de découvrir parfois des histoires un peu romanesques derrière les œuvres, enfin derrière le parcours d'un artiste, il y a toujours un roman quelque part.
Alors c'est aussi un lieu clos, et dans ce lieu clos évoluent des personnages un peu fous, un peu dingos.
Comme on fait une comédie, dans la comédie on tord toujours un peu la réalité, on fait pas un documentaire.
Ah non, moi je parlais du film, je n'accusais pas les gardiens de musée.
Mais c'est vrai, ce sont des gens qui sont cabossés en fait dans le film, c'est des personnages qui ont eu du mal avec la vie et qui ont trouvé refuge dans ce musée, voilà, qui ont trouvé cet emploi dans ce musée, chacun pour des raisons différentes, et qui se retrouvent là. Donc Pio Marmaille et moi-même, on est entourés par des personnages qui sont assez, c'est pas qu'ils sont atypiques, c'est que c'est des gens qui sont fragiles et drôles et qui sont d'ailleurs incarnés par des acteurs merveilleux comme Gilles Privat, Mélodie Richard, qui sont des acteurs de théâtre que moi j'aime beaucoup et qui ont déjà en tant qu'acteurs un univers à eux tout seuls. Donc ça crée une on a à la fois le décor du musée des Beaux-Arts, on a à la fois cette distribution que je trouve très riche et très passionnante, et chaque personnage a son histoire de sont des gens qui oui, qui ont ce qu'on dit, c'est des personnages un peu des gens inadaptés, qui ont du mal, voilà, qui ont du mal avec la vie, qui ont du mal.
Chacun fait un peu comme il peut. Certains sont trop sensibles. Dans l'hypnose, ils sont peut-être trop sensibles. L'esthétique, et puis il y a cette histoire dans l'histoire, puisque il s'agit aussi de théâtre d'une certaine manière, puisque c'est le métier qui a quitté Pio Marmaille avant d'y venir. Il s'agit de peinture, donc il y a une sorte de croisée des arts aussi.
Oui, parce que c'est un film sur un personnage qui a renoncé à une passion. Et le renoncement à une passion, ben, c'est un thème, c'est, pour moi, c'est le thème principal du film, et c'est ce qui me touche le plus. C'est-à-dire que, même si c'est de la comédie, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de fuir une addiction. Il était passionné par ce qu'il faisait. C'est un metteur en scène de théâtre. Il est allé trop loin, il s'est brûlé les ailes, et maintenant il se retrouve gardien de musée, parce qu'au moins il souffre pas. Voilà. Il a l'impression qu'il ne va pas souffrir en fuyant ce qu'il a brûlé, ce à quoi il s'est brûlé. Mais il va tomber sur cette femme qui s'appelle Sybille, et cette rencontre, en fait, c'est deux personnages qui ont l'air très différents, mais qui en fait se ressemblent beaucoup, et qui dans cette rencontre, il va être obligé de retoucher à ce qu'il a fui, à ce qu'il a aimé faire, à redevenir metteur en scène pour une histoire d'escroquerie. Donc c'est amusant parce que la vie c'est ça aussi parfois, c'est aussi du jeu, et c'est quelqu'un qui se retrouve malgré lui à être obligé de rejouer. Rejouer ce qu'il a essayé de fuir.
Alors, Léa Drucker, on a le sentiment que dans ce jeu, au début, c'est un jeu extrêmement statique. On est gardien de musée, assis sur une chaise. Et puis, finalement, ce cocon va être un lieu de révélation. Alors, on va pas dévoiler ce qui se passe dans le film, mais finalement, ce jeu presque statufié dans le musée devient un jeu très corporel.
Oui,
comédienne.
Parce que dans leur tête, en tout cas, mon personnage, Sybille, c'est une femme qui est très agitée. Dans sa tête, il se passe énormément de choses. Elle a une vie. Il se passe beaucoup de choses dans sa tête, mais c'est aussi une solitude. Donc, la rencontre avec Franck, finalement, malgré les apparences, va la bousculer et la révéler à elle-même et lui révéler quelque chose qu'elle aime faire et qu'elle a envie de faire. C'est une aventurière en fait et qui est enfermée dans ce musée.
C'est aussi un peu une comédienne, hein. C'est le jeu dans le jeu.
Oui, elle se révèle comédienne et ça l'éclate. Mais elle n'y avait pas pensé parce que c'est quelqu'un qui est complexé, c'est quelqu'un qui a subi un traumatisme, donc a une forme de dyslexie qui l'empêche de faire tout ce qu'elle veut faire, donc elle cache ce handicap.
On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé avant, hein.
Elle a eu ce qu'on appelle un traumatisme léger, ce qui existe vraiment, mais ce qui est très embêtant, parce que quand vous avez un traumatisme léger, un traumatisme crânien léger, c'est pas hyper spectaculaire, mais ça peut créer des incidences qui vous empêchent ensuite de pouvoir continuer parfois à travailler ou de... Donc elle a ça et c'est ça c'est une des choses qu'elle dissimule et qui la rend agressive.
Revêche. Voilà. En tout cas, on va l'écouter. On va écouter un petit extrait de Je promets d'être sage.
C'est un très beau coffret, vraiment. J'en ai rarement vu d'aussi complet. Il vous vient d'où ?
Il appartenait à notre père. C'est un collectionneur.
Un grand collectionneur.
Il était fasciné par la céramique, la faïence, la porcelaine. Vous connaissez la différence entre la porcelaine et la faïence ?
Oui, naturellement. Et j'ai une petite question à vous poser. Vous êtes frère et sœur ?
Oui.
Enfin, Nicolas est mon demi-frère. On a le même père. Mm-hmm. On s'est d'ailleurs rencontrés très tard. Jusqu'à mes 16 ans, je vivais avec ma mère à Jakarta. Qui avait suivi un tisserand dont elle était passionnément amoureuse. Vous connaissez Jakarta ?
Pas du tout, j'y suis jamais allée.
Il faut aller à Jakarta.
Ah, oui.
Les odeurs, les saveurs, les gens sont adorables.
Oui, mais
heureusement...
Et ma mère avait une magnifique plantation d'EVA.
Heureusement, depuis, Solène a emménagé en France.
Oui. Et oui. Je suis comptable dans une entreprise de transport.
Hervé Transport.
Voilà, et heureusement que j'ai mes filles. Astrid et Sylvain. Là, on les a laissés au Poney Club. D'ailleurs, oui, quelle heure il est ? Faut pas qu'on tarde. Mais J'ai hâte de les retrouver.
Oui, bien. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une très très belle pièce. Hein. Mais j'aurais besoin quand même d'un minimum d'informations pour pouvoir l'évaluer correctement.
Léa Drucker, on entend le jeu de rôle, on ne dévoilera pas ce qui se passe plus tard dans le film, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce duo qui se crée, assez surprenant. C'est la dynamique du tandem cinématographique qu'on retrouve. Est-ce que vous avez aimé justement cette dynamique-là de jeu?
J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Puis surtout, j'ai adoré faire ça avec Pio Marmaille, parce que c'est un acteur assez... il est très étonnant. Il est à la fois hypersensible, complètement... il a un grain de folie. Il est extrêmement imprévisible et en même temps très rigoureux. Donc c'est un partenaire merveilleux, parce que on s'est énormément amusé. Bon, pas que en dehors du tournage. On s'est vraiment amusé sur le plateau à... C'est le principe de la comédie, souvent d'ailleurs, c'est de trouver un duo qui fonctionne. Et je pense que entre nous, ça a collé très rapidement, parce qu'il était ouvert à toutes les propositions. Et puis il est très inspirant, Pio. Donc pour moi, c'était génial. Et puis c'était un vieux rêve aussi que j'ai de jouer ce genre de comédie-là, parce que moi, pareil, j'ai toujours adoré une comédie qui s'appelle Haute Pègre de Lou Beach, où c'est aussi une histoire de jeu dans le jeu. Et je trouvais que dans ce film, ça nous permettait d'explorer un peu ce rythme, cette fantaisie, et en même temps essayer d'incarner ces personnages avec vérité, puis en même temps de s'appuyer sur le partenaire. C'était vraiment super.
Alors c'est un jeu qui joue aussi très fortement sur les contrastes des deux personnages. Vous dans une forme de raideur à certains moments, et lui dans un côté assez expansif. Comment est-ce que justement le réalisateur a eu cette idée de vous choisir pour ce rôle-là, Ronan Lepage? C'est un premier film. Vous aviez été repéré, je crois, dans la série Le Bureau des Légendes.
Alors oui, je crois que c'est parce qu'il a vu Le Bureau des Légendes et qu'il trouvait que j'avais une autorité dans Le Bureau des Légendes qui lui plaisait bien. Et puis c'est vrai que j'ai joué des personnages un peu autoritaires comme ça au théâtre. C'est des personnages féminins qui m'amusent, en fait, parce que c'est grinçant, c'est des femmes qui me font rire. Enfin, on voit ça des fois chez des femmes. Je suis souvent inspirée par mon arrière-grand-mère. J'avais une arrière-grand-mère comme ça, qui était très autoritaire et en même temps qui était très drôle et qui était très théâtrale et qui se mettait en scène dans son appartement. Et donc, c'est sans doute ma première inspiration. Parce qu'il y a, encore une fois, c'est des personnages qui ont souvent des failles. Et donc, ça m'intéresse d'aller explorer de ce côté-là aussi.
Alors, ça fait penser aussi aux jeux qu'on peut retrouver plus facilement au théâtre, des contrastes. Vous allez jouer Fedo à la rentrée. Vous avez eu beaucoup de collaborations aussi au théâtre. Et là, je voulais vous proposer d'écouter Michel Faux. C'était dans Le Grand Entretien, le 17 mai 2013.
Moi, je pense que souvent, je disais, je suis plus authentique sur scène que dans la vie. Mais parce qu'on dit toujours... faut être naturel comme dans la vie, mais en fait dans la vie on n'est pas toujours naturel, on est rarement naturel même. On fait attention. Ah oui, on fait attention quand même. On fait attention à comment on va s'habiller, ce qu'on va dire, comment on va se comporter, ou on triche, ou on parle faux, et on dit pas ce qu'on pense. Mais en effet sur la scène, même quand j'ai joué, j'ai tout fait. Donc même quand je jouais à poil sur scène, quand je me mettais tout nu sur scène, c'était comme un costume pour moi en fait. C'était pas, il y avait toujours une distance, où il y avait toujours un masque, en fait. Et c'est pour ça que le travestissement, c'est fascinant, parce que c'est vraiment un masque, quoi, en fait. Donc, du coup, on ose faire des choses. Ça, c'est un classique, c'est un cliché, mais c'est vrai, le masque nous permet d'oser faire des choses.
Léa Drucker, vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Vaux? On fait presque plus attention dans la vie?
Oui, non, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. C'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on se sent plus soi-même, parfois, en faisant des personnages... que dans la réalité, où il y a plein de choses qu'on saute dans la vie, il y a plein de choses que moi je m'autoriserais jamais à faire et que je fais, mais avec joie sur scène.
Il y a eu de l'improvisation dans ce film, je crois.
Oui, il y a eu de l'improvisation dans le film, oui. À quelques endroits, parce que c'était quand même très, très bien écrit, mais il y a eu un endroit où Ronan Lepage nous a dit, vas-y, improvise, parce que. Et c'est vrai que ça a servi le personnage, parce que ce personnage, qui est quand même très dur, très noir au départ, il s'ouvre à un moment donné, il s'épanouit d'un coup, elle s'amuse tout d'un coup, et même on voit son visage sourire, enfin, elle se transforme même physiquement dans le film.
Donc je crois que lorsqu'on trouve ce qu'on aime faire, quelque chose qui nous plaît, un endroit de créativité, je sais pas, on devient qui on est, je crois. Et cette femme, c'est ce qui lui arrive dans le film. Elle ment, elle s'invente des histoires, elle veut que sa vie soit un roman, soit une aventure, mais là-dedans, elle est vraie.
Alors, beaucoup de contrastes pour vous cette année. Vous avez été récompensé cette année pour Jusqu'à la garde, donc, qui est un film qui est de 2017. Donc beaucoup de contrastes de jeu. Vous allez retourner à la comédie à la rentrée avec La Dame chez Maxime, donc Fedo, avec une mise en scène de Zabou Breitman. Peut-être quelques mots d'abord sur ce rôle, ce César et ce Jusqu'à la garde. Peut-être vous voulez qu'on écoute un extrait d'abord pour nous remettre dans le bain. Oui.
Myriam ?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi.
Sors, on va en parler.
Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si... Mais...
Sors pour me donner son adresse.
Écoute, je veux pas que ça se passe mal.
Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, on en
barre. Antoine, il est vraiment pas bien.
Sors, on puisse discuter.
Je sors pas, non.
Rien que l'extrait nous replonge dans un bain assez glacé. Léa Drucker, quelques mots pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur l'histoire de ce film et sur ce que l'on peut voir à l'écran, à savoir un film qui fonctionne sans superflu de dialogue, etc., qui est extrêmement visuel et efficace. On est complètement immergé dans les points de vue de ces victimes.
Oui, c'est un film où il n'y a même pas de musique. C'est un film complètement organique sur la terreur, une terreur qui est très présente dans nos sociétés, malheureusement. Enfin, c'est quelque chose, c'est une guerre familiale, une guerre intime, en fait. Et je dis une guerre parce qu'il y a des personnages notamment cette mère, qui essaye de se rebeller, de retrouver une liberté, mais cette même si elle a eu le courage d'amorcer cette tentative de liberté, c'est une épreuve qui peut être interminable.
Alors ce film justement raconte la garde, c'est celle des enfants, c'est un film sur une séparation et la violence d'un homme, violence immense. C'est un film très psychologique avec un jeu très intérieur, vous êtes là mais finalement il se dit peu de choses.
Oui, c'est pas... Je pense Xavier Legrand a traité ce film presque comme un thriller et en même temps, il a fait un travail de fourmi, extrêmement, une recherche, c'est un travail de fourmi, quoi, pour comprendre vraiment ce qui se passe entre les personnages, mais même entre ces personnages, entre le père, la mère, entre le rapport à l'enfant, le chantage, le rapport à la justice, et où se trouve la vérité. Parce que du point de vue du personnage que joue Denis Ménochet, lui, il est dans sa vérité, il se sent persécuté, et il le joue comme ça, et c'est ce qui crée une histoire qui n'est pas traitée de façon manichéenne. C'est pas le bien, le mal. Au final, on peut dire ce qui est bien, ce qui est mal. Mais quand on est au sein d'une famille, c'est très difficile, même pour la justice, de percevoir qui dit vrai, qui raconte la vérité. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est le père? Et c'est pour ça que ce sont souvent des histoires épouvantables et très éprouvantes. Et
comment vous avez travaillé ce rôle, vous, Léa Drucker?
On avait fait un court-métrage d'abord, qui s'appelle « Avant que de tout perdre ». C'est comme ça que j'ai rencontré Xavier Legrand. On n'a pas tellement parlé. Bizarrement, on n'a pas tellement parlé justement de la psychologie, parce que sa mise en scène est extrêmement précise et rigoureuse, et qu'il a toujours une réflexion sur ses cadrages, est-ce que ça va raconter, etc.
La caméra est très précise.
Très précise, et ce qui crée une angoisse, même quand je réécoute ce que vous avez passé, le travail sur le son est diaboliquement précis et très très angoissant. Donc c'est du cinéma, c'est ça qui est bien, c'est qu'en même temps il parle d'un fait de société qui est réel, et en même temps il fait du cinéma, Et donc, il m'a fait confiance et on a travaillé ensemble, pas à pas, quoi. On a essayé d'être au plus, comment dire. Moi, j'ai pas préparé énormément, en fait. J'ai fait avec quelque chose d'instinctif à partir d'histoires qu'on m'a racontées, de choses que j'ai vues autour de moi, de... Il y a quelque chose de très humiliant pour cette femme aussi de ne pas réussir à être mère librement et d'être entravée dans son parcours de mère. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais ressentir profondément. Donc, ce qui était étonnant, c'est qu'à la fin de ce court-métrage, quand on l'a présenté, là, j'ai eu des témoignages et des femmes qui sont venues me parler.
Vous êtes retrouvée en blême, d'une certaine manière, à travers ce personnage de Myriam.
C'est le film, c'est pas part... je sais pas en fait, c'est-à-dire que ce film a permis à contribuer au fait qu'on pouvait s'exprimer, c'est-à-dire que quand on faisait des projections, il y avait beaucoup de gens qui témoignaient de leur histoire, mais il y avait par exemple des hommes qui disaient je suis l'enfant de ce film, je suis ça libère la parole, et c'est vrai que nous on n'a pas fait ce film en disant on va libérer la parole, mais en tout cas déjà il y avait un peu de parole libérée dans le fait de vouloir raconter ce film, c'est-à-dire que il y avait une démarche sincère de la part de nous tous, c'est-à-dire de toute l'équipe du film, de vouloir raconter cette histoire et de vouloir le faire bien. Et ça a été une récompense pour nous d'entendre des témoignages de gens qui disent on s'est reconnus, c'est exactement ça. Ça a permis des conversations. Le fait de parler est quelque chose qui est extrêmement important, de parler de ça. Ça a été très tabou jusqu'ici, ce sujet. C'était très difficile d'en parler.
Et en même temps, on a entendu au César votre volonté de vous positionner avec beaucoup de recul et de distance par rapport à ce sujet, parce que vous êtes la comédienne du film et pas la victime et pas...
Oui, c'est surtout ce que je voulais dire, c'était que c'est une joie de recevoir une récompense d'avoir fait un film comme ça.
Le film en a eu 5.
Déjà, le film en lui-même est une récompense de pouvoir être dans un film comme ça, c'est une récompense de recevoir ce prix et d'avoir cette attention-là. Mais il faut pas oublier que ça raconte quelque chose et que ces femmes-là, voilà, vivent ça au quotidien et que on peut pas être comédien et juste oublier la réalité de ce qu'on raconte, même quand on fait une fiction. C'est-à-dire que il fallait que je puisse réunir les deux.
Alors, grand écart, puisque on passe du cinéma au théâtre et au théâtre à la rentrée, ce sera Fedot et vous serez la môme crevette?
Je serai la môme crevette.
Alors, la môme crevette, vous reprenez cette dame de chez Maxime. C'est une collaboration déjà ancienne que vous avez avec Zabou Breitman. Enfin, oui. Ancienne, vous avez plusieurs fois collaboré. Et cette môme crevette, c'est une danseuse du Moulin Rouge.
Oui.
Qui se fait passer pour une femme de médecin, enfin, qui est obligée d'être...
C'est obligée, c'est une femme... c'est une femme festive, une danseuse de cabaret, qui prend la vie du bon côté... Et qui se retrouve chez les bourgeois et qui va créer énormément de tourments et qui va s'en amuser beaucoup. Et c'est amusant parce que c'est ce qui m'amuse beaucoup chez Fedot, c'est comment il parle de son propre milieu et comment il s'en moque lui-même. En mettant ce personnage-là, en mettant ce personnage-là de la môme crevette au centre d'un univers, d'un appartement bourgeois, au milieu de tous ces bourgeois qui sont complètement dépassés, dont Petit Pont qui est complètement dépassé par la situation.
Alors qu'est-ce que vous avez imaginé justement dans le jeu qui puisse permettre de donner des couleurs un peu différentes à Fedot, beaucoup joué, beaucoup mis en scène?
En fait, Fedot, c'est tellement... Moi, ça me plaît énormément parce que ça me fait beaucoup rire. Mais c'est plus que ça, c'est que Fedot, je trouve qu'il a un point de vue... finalement très visionnaire sur le monde dans lequel il vit, sur cette bourgeoisie qui est hypocrite, qui a des codes, le mariage, on peut voir un aspect même un peu très pessimiste, un peu déprimant parfois parce que il a une vision du couple quand même qui est assez tragique. Mais c'est un grand auteur de comédie, donc il va tordre la réalité de son environnement, de toutes ces hypocrisies et en faire quelque chose qui nous amuse et qui nous divertit. Mais donc je sais plus ce que je voulais dire.
peut-être sur Zabou Breitman.
Oui, sur Zabou Breitman. Donc là, en fait, je suis en plus entourée de personnes, de personnalités qui sont des gens qui sont en plus eux-mêmes, c'est des acteurs qui sont tragicomiques. Michel Lescaut, André Marcon, Christophe Paou, et l'univers de Zabou. Zabou est quelqu'un une femme qui a énormément d'énergie, qui est très créative, qui a plein d'imagination, plein de fantaisie, mais qui en même temps va dans la profondeur. Parce que si Fedo, il s'agit pas forcément de le réinventer, mais déjà de le jouer bien et de bien le représenter. Déjà, si on joue bien les situations telles qu'elles sont écrites, ça sera drôle. Mais c'est ça qui est difficile à faire, parce que c'est un travail. Il faut une technique, il y a de la virtuosité dans son écriture, c'est complètement collectif, on peut pas jouer tout seul dans son coin. Donc c'est un travail technique très
ardu. Il y a beaucoup de physique aussi.
Très physique. Il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de l'acrobatie, enfin, il y a de tout. Et c'est vrai, ce qui est génial avec Zabou Breitman, c'est que comme elle a une imagination, elle ne s'empêche rien. C'est quelqu'un qui a des rêves, qui a des images, et elle ne s'empêche rien. Elle va jamais dire, ah, mais non, ça, c'est pas possible à faire. On va toujours essayer de faire ce qu'elle a dans la tête, ou de ce qu'un des acteurs propose. Donc ça va très loin, ça peut aller très loin. Et c'est vrai que Fedo se prête vraiment à ça. C'est-à-dire que ça part d'une réalité, d'un cauchemar, et ça devient une folie. Mais à chaque fois, il faut que le spectateur puisse se reconnaître dans tous les personnages. C'est pas juste un truc d'époque. C'est un genre de very bad trip, oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un type quand même qui se réveille avec une femme dans son lit, et cette femme, c'est la môme crevette. Sauf qu'il ne se souvient plus de rien. Il se souvient plus de ce qu'il a fait la veille. Donc le point de départ est quand même assez hilarant.
Et pour le reste, il faudra aller vous voir au théâtre de la Porte Saint-Martin. Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu. Je rappelle que le film Je promets d'être sage, réalisé par Ronan Lepage, sort en salle ce mercredi 14 août et que vous serez également donc au théâtre de la Porte Saint-Martin pour La Dame de chez Maxime, mis en scène par Zabou Breitman. Et ça, ce sera à partir du 10 septembre. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été consacrée à l'exposition Paris-Londres et en seconde partie à l'écrivaine Anne Griffin. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou Le Joly, Lou Quevauvilliers et Julien Rosa. À la réalisation, Alexandra Longuet, à la technique, Laurie Vachon. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.